Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Corentin Mansois, mais aussi Samuel Bernard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Troisième volet de notre série consacrée à l'agriculture. Après avoir parlé lundi du malaise paysan, de l'agriculture biologique hier, place aujourd'hui à la question foncière. Redistribuer la terre, une utopie pour l'interrogation. Direction l'Amérique latine.
À partir d'ici jusqu'à là-bas, c'est à l'exploitant agricole. Ils nous ont tout détruit. Et pendant ce temps-là, mon fils, le fils de mon voisin, meurt de faim.
La politique de l'État colombien, c'est la concentration des terres et il utilise les paramilitaires pour expulser les paysans, les communautés indigènes et noires et permettre aux multinationales de venir exploiter nos ressources.
Cela fait 25 ans que nous luttons contre l'agro-business. Notre lutte fait face à la répression de la police, des militaires et des paramilitaires. Nous résistons pour ne pas partir de notre territoire, pour défendre notre vie, parce que les paysans sans champs ne vivent pas. Sans terre, nous ne vivons pas.
Les centaires du Brésil à la Colombie en passant par l'Argentine. L'Amérique latine est la région la plus inégalitaire du monde sur le plan de la répartition des terres. C'était le constat effectué par l'ONG Oxfam dans un rapport publié en 2016 décrivant une situation, je cite, d'extrême concentration des terres. En Colombie, par exemple, 70% des terres productives se concentrent dans 0,4% des exploitations du pays. Mais c'est pas beaucoup mieux du côté du Chili ou du Paraguay où 70% des terres sont accaparées par 1% des exploitations. Tout au long du XXe siècle, pourtant, sous la pression de petits paysans, de mouvements de révolte, de nombreuses tentatives de réformes agraires ont vu le jour, de l'Argentine au Mexique en passant par le Nicaragua, le Pérou ou encore le Brésil. Les gouvernements tentèrent de remédier à cette extrême inégalité dans la répartition des terres et pourtant aujourd'hui, toujours selon le rapport Oxfam, on apprend que la concentration des terres en Amérique latine y est encore plus forte que dans les années 60. Alors comment expliquer cet échec des réformes agraires et pourquoi semble-t-il impossible en Amérique latine de concevoir une répartition plus équitable des terres agricoles qui, pour défendre les petits paysans, aujourd'hui marginalisés politiquement, comment empêcher que l'inégal accès à la terre soit à nouveau le ferment de guerre civile qui touchait à la région? Pour évoquer toutes ces questions, plusieurs invités. D'abord, Michel Merlet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur agronome, directeur de l'association ACTER, pour association pour contribuer à améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, qui a d'ailleurs un site très fourni en information. Jacobo Grajales, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille, chercheur au CERAP, Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales, auteur de nombreux articles ou ouvrages concernant les ouvrages, par exemple le dernier en date, L'État malgré tout, qui était paru chez Cartala, mais aussi un article qui avait été publié dans AOC, Colombie, une paix qui ne règle pas le conflit agraire, qui va être évidemment un sujet qu'on va largement évoquer ce matin. Mais avant justement d'évoquer le cas de la Colombie, on parlera aussi du Nicaragua, on va commencer peut-être Michel Merlet, vous avez entendu mon introduction et ce rapport d'Oxfam dont je parlais, de 2016, la concentration de l'accès aux terres et de leur contrôle est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la mise en œuvre des politiques de redistribution des années 60, voilà ce que dit le rapport d'Oxfam. Au-delà des cas particuliers, des contextes nationaux, on va en évoquer certains. Quelles sont au fond les raisons de cet échec général? Pourquoi l'Amérique latine a été incapable d'améliorer l'accès à la terre? D'où vient cette spécificité? Michel Merlet.
Alors, c'est une question, il faut, pour s'expliquer, remonter un peu au processus de colonisation qui ont lieu à partir de la fin du 15e siècle, hein, avec l'arrivée des Espagnols et puis des Portugais, hein, et qui rencontre des civilisations très diverses, hein, dont certaines avec des États très constitués, avec des sociétés de classe, comme les sociétés incas, les sociétés aztèques, par exemple. Et puis, à côté de ça, des populations extrêmement, beaucoup moins structurées, hein, des peuples de chasseurs-pêcheurs, comme il y en avait beaucoup en Amazonie et dans beaucoup d'autres endroits. Hein, et avec l'arrivée des Espagnols et puis des Portugais, dans l'espace de moins d'un siècle, il y a 90% de la population du continent qui disparaît. Hein, c'est quelque chose d'absolument inédit qui s'est produit nulle part. Et donc on se retrouve avec un continent avec finalement énormément de terres libres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Hein, et tout un processus de colonisation qui va jeter les bases du binôme latifundio-minifundio, c'est-à-dire grande exploitation coloniale et puis très petites exploitations, hein, qui va se constituer avec d'abord la soumission des communautés indiennes qui restent, leur réduction de façon à pouvoir les contrôler et pouvoir exploiter leur travail. Hein. Et puis, comme c'était pas suffisant, finalement, après, il a fallu importer des travailleurs noirs, des esclaves pour les plantations. Et puis, dernièrement, fin du 19e et début du 20e, il y a eu également une importation de main-d'œuvre de paysans pauvres européens. Hein. Mais toute la situation de l'Amérique latine, elle est caractérisée par cette présence très très importante de fronts pionniers, c'est-à-dire d'un mouvement de reconquête des zones de forêt et des zones habitées par des sauvages, hein, disaient les Espagnols. Hein, et donc c'est une reconquête qui se fait de manière un peu militaire, et puis aussi par un redémarrage tardif de la croissance démographique, hein, qui redémarre en gros à la moitié du 18e siècle.
Hein, et on a tout cet héritage colonial finalement qui explique aussi cette difficulté à réformer.
Cet héritage est très fort, ouais. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau culturel et des rapports que vont avoir les classes dirigeantes avec les paysans et les Indiens, qu'au début, l'Indien, on considère qu'il n'est même pas un homme. Hein, on se pose la question de savoir s'ils sont vraiment des êtres humains ou pas. Hein, et puis finalement, il est tellement exploité qu'on arrive à courir le risque de ne plus avoir personne pour travailler dans les haciendas espagnoles. Hein, et donc, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour le protéger, mais le protéger comme de la main-d'œuvre à disposition des haciendas.
Jacobo Grajales, il y a évidemment ce passé colonial, cette forme, cet héritage qui, évidemment, va poser problème et pose toujours problème pour redistribuer les terres. Mais il y a effectivement ces grands propriétaires, ces latifundios, mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore finalement les principaux obstacles aux réformes agraires, ou est-ce que finalement les vraies difficultés sont ailleurs? Il y a forcément un moment où on va parler de l'agro-business, voilà ce mot un peu générique derrière lequel on met beaucoup de choses, mais est-ce qu'au fond le problème c'est pas d'abord aujourd'hui, hein, l'agro-business, avant d'être les propriétaires de ces immenses exploitations?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire ancienne liée à la colonisation et à la formation des États indépendants en Amérique latine se combine aujourd'hui avec, effectivement, ce nouveau cycle des agrobusiness, plus tout à fait nouveau, puisque il existe depuis déjà plus d'un demi-siècle, notamment au Brésil et en Argentine, qui ont été les pionniers là-dessus. Alors, il se combine, par exemple, par ce qui a été souligné par Michel Merlet, ces fronts pionniers. En Amérique latine, on a considéré qu'il y avait, dans plusieurs pays, des frontières agraires disponibles à exploiter. C'est, par exemple, le Cerrado brésilien, c'est l'Est, les terres basses de l'Est de la Bolivie, ou c'est également les plaines orientales de la Colombie, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, ça se combine avec d'autres facteurs également actuels. À partir des années 80, la question de l'ajustement structurel qui a durement frappé les paysanneries du continent et qui a clos tout un chapitre dans lequel on avait quand même laissé une certaine place politique à ces acteurs. Et puis, dans certains pays, sans en faire évidemment un facteur surplombant, la question du trafic de drogue a également transformé les rapports agraires dans les campagnes. Je pense évidemment à la Colombie dont on parlera tout à l'heure, mais également au Mexique. Un rapport récent du think tank Noria et du Mexico Institute souligne par exemple les transformations aujourd'hui dans les campagnes productrices d'opium au Mexique.
Michel Merlet, vous aviez-vous écrit un article, c'était il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2013, des réformes agraires sont toujours nécessaires, mais sous des formes nouvelles, vous y dessiniez les contours des réformes futures souhaitables au regard des situations actuelles, et pour vous, elles devaient répondre à un certain nombre de principes. Le premier d'entre eux, c'était rompre, je vous cite, rompre avec la croyance selon laquelle la grande production est plus performante que la production paysanne. Ça, c'est absolument essentiel.
Ben c'est tout à fait fondamental et c'est quelque chose qui est complètement méconnu en général. Hein, on a l'impression que les très grandes exploitations qui utilisent de très gros tracteurs, qui produisent avec des produits, des cultures transgéniques, sont les plus modernes et les plus susceptibles de favoriser le développement des pays. Hein, et ça, c'est vrai en Amérique latine, c'est pas vrai seulement en Amérique latine, c'est vrai aussi dans pas mal d'autres continents, hein, mais c'est particulièrement vrai en Amérique latine parce que les paysans qui produisent pourtant l'essentiel, 75% de l'alimentation du continent, ont été repoussés dans les zones éloignées et ne sont pas présents politiquement, on a l'impression qu'ils n'existent pas, hein, alors qu'ils jouent malgré tout, malgré leur rôle de dépendance, un rôle absolument fondamental. Alors quand on fait des études, on en a fait un certain nombre, des étudiants avec des étudiants de différentes universités, d'AgroParisTech, de Supagro, de l'IEDES. Quand on compare la richesse créée par ces grandes exploitations capitalistes à salariés et qu'on compare ce qui est créé par les petites exploitations paysannes qui se trouvent aux alentours, on s'aperçoit que les grandes exploitations produisent toujours 2-3 à 15 fois moins de richesse nette par hectare que les petites exploitations. Et pourtant, les propriétaires des grandes exploitations sont riches alors que les propriétaires, les exploitants familiaux sont pauvres. Alors pourquoi, finalement, c'est la grande question. C'est parce que dans les systèmes capitalistes à salariés, la répartition de cette richesse va rémunérer essentiellement les propriétaires du capital.
Jacobo Grajales, c'est intéressant parce que aujourd'hui on a cette idée qui est une fausse idée qu'au fond, plus on a des surfaces importantes et plus on va être productif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 30, par exemple, quand on fait la grande réforme, une grande réforme, il y en a plein, mais une réforme agraire en Colombie, on a précisément l'idée inverse, c'est-à-dire qu'on se dit que précisément la concentration rend l'agriculture moins productive et donc on va essayer de lutter contre cette concentration. Il y a eu un vrai retournement de cette idée en réalité.
Alors effectivement, dans plusieurs pays de la région, il y a un moment qu'on peut qualifier de libéral durant la première moitié du XXe siècle, voit cette idée défendue, cette idée selon laquelle il faut pousser une sorte de république des propriétaires qui serait à la fois un garant de modernisation politique, mais aussi une façon d'impulser la production de cultures de rente. Je pense notamment au café, c'est le cas en Colombie, mais c'est le cas également dans d'autres pays de la région.
On va parler justement de la Colombie. 2016, après plusieurs années de négociations, le président de l'époque, Manuel Santos, avait annoncé un accord de paix avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, mettant ainsi un terme à plus d'un demi-siècle de conflits, d'ailleurs directement liés à la question foncière, parce que quand on regarde un peu les racines de cette révolte, elle plonge dans les années 30-40 avec des contestations paysannes extrêmement fortes qui exigeaient déjà à l'époque une réforme agraire pour rompre justement avec cette concentration des terres. L'accord de paix prévoyait tout un volet concernant la redistribution des terres. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? En particulier de cette réforme agraire qui était l'un des 5 points de l'accord. Il y a une chose qui a changé depuis, c'est le président, puisque Santos n'est plus là et qu'il a été remplacé par Iván Duque.
Nous récupérons un pays qui présente beaucoup de défis, de complexité et de difficultés. Non seulement la Colombie continue à connaître des soubresauts de violence, mais certains s'obstinent à vouloir continuer à persécuter les citoyens.
De perseguir al ciudadano. Voilà, Iván Duque, de la droite conservatrice, qui avait été élu en juin dernier, qui était soutenu notamment par Álvaro Uribe, qui était l'ancien président, premier opposant à Santos et à ce cycle de négociations de paix. Il avait beaucoup attaqué Santos, considérant qu'il faisait trop de concessions aux FARC. La campagne colombienne a beaucoup tourné autour justement de cet accord de paix. Que change finalement Jacobo Grajales l'arrivée de Duque? Est-ce que son arrivée signe au fond, sinon un coup d'arrêt, au moins un recul dans la de cet accord de paix, et puis on va regarder en particulier ce qui s'est passé en termes agraires. Jacobo Grajales.
Elle signe effectivement un coup d'arrêt, mais la désaccélération du processus était en réalité ancienne. Dès le début de la démobilisation des FARC, le gouvernement, donc à l'époque l'administration Santos, commence à se désintéresser de cette question. On considère que le travail a été fait et que les FARC ont accepté de rendre les armes et que finalement plus aucun effort n'était nécessaire. Or, avec l'arrivée d'Ivan Duque au pouvoir, il y a déjà un changement dans le personnel politique. On a un personnel politique beaucoup plus touché par les alliances avec une classe politique régionale, évidemment avec des intérêts très forts dans les milieux agro-industriels. On a également l'idée selon laquelle il faut revenir sur un certain nombre de réformes des années Santos qui porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre, et notamment d'entreprendre sur les questions agraires.
Exemple.
voit un exemple paradigmatique de cela. L'agence est chargée de la restitution des terres, c'est-à-dire de traiter les nombreux cas de spoliation de terres qui ont eu lieu pendant le conflit armé. Le directeur de cette agence a récemment été remplacé, alors qu'il s'agissait auparavant de quelqu'un qui avait fait carrière dans les milieux proches des questions foncières et qui était vu comme ouvert à la négociation avec les paysans. Il a été remplacé par un ancien lobbyiste de la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile.
Oui, donc il y a un premier problème qui est au fond la dépendance politique de cette agence. Et d'ailleurs, cette question des agences, Michel Merlet, c'est l'une des conditions nécessaires pour les réformes futures dont a besoin l'ensemble du sous-continent. Vous dites qu'il faut absolument faciliter la création d'instances permanentes de régulation des transferts de terres, mais aussi au fond de garantir leur indépendance politique. Ça, c'est décisif. Et on en a là un exemple absolument probant, Michel Merlet.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'une réforme agraire, c'est quelque chose qui ne peut se faire que dans des conditions exceptionnelles. La première réforme agraire en Amérique latine, elle a été faite au Mexique, alors que la situation sociale était devenue complètement insoutenable avec l'augmentation des inégalités. Elle a été un des leaders de cette réforme, c'était Emiliano Zapata, il y en a eu d'autres. Et elle s'est ensuite prolongée pendant 70 ans et elle a donné au Mexique une caractéristique agraire, enfin des caractères agraires qu'on va retrouver pratiquement nulle part ailleurs en Amérique latine. Avec finalement une restitution des terres qui s'est faite non pas à des individus, mais à des néo-communautés qu'on a appelées les ejidos. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer une instance de régulation au niveau local de la gestion des terres, non pas entre les familles, mais au niveau d'une instance qui gérait, au niveau d'un territoire, les relations entre les familles, l'accès aux familles. Et donc il y avait un droit des communautés et puis un droit des familles paysannes qui se trouvaient dans ces ejidos. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné par la suite avec les réformes agraires, on a fait de la redistribution individuelle, souvent sous le contrôle de l'État, sous le chapeau de l'État. Et quand l'État a arrêté de protéger ces zones, ces périmètres de réformes agraires, ces bénéficiaires de la réforme agraire ont été amenés à vendre, à se défaire de leurs terres, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à survivre avec très peu de terres, avec très peu de moyens. Donc il y a une articulation...
Donc là, un déficit d'accompagnement en réalité de cette...
Pas seulement. Le fait que quand on a en concurrence des exploitations qui produisent avec des niveaux de productivité aujourd'hui nets qui vont de 1 à 1000, c'est le cas au Brésil par exemple, mais c'est le cas dans la plupart des pays d'Amérique latine, quand vous êtes sur une petite unité, vous avez une productivité du travail qui est très faible par rapport à la productivité du travail des très très grandes exploitations, même si la productivité par hectare est beaucoup plus importante pour les petits producteurs que pour les grandes exploitations. Et donc si vous n'avez pas de politique qui permet de protéger ces petites agricultures pour éviter qu'elles soient en compétition avec celles qui produisent 1000 fois plus ou 500 fois plus que les petites bénéficiaires de la réforme agraire, ben de fait, elles sont amenées à vendre leurs terres. Et il n'y a eu aucun mécanisme de mise en place pour réguler ces transferts de droits fonciers, contrairement à ce qui a été fait dans la plupart des pays européens, par exemple.
Jacobo Grajales, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui avait été prévu dans le texte de 2016 dans l'accord de paix? Je le disais, il y avait 5 grands piliers, il y avait des choses sur l'économie, sur la politique, sur la justice, et puis quelque chose, tout un volet sur la redistribution des terres. Qu'est-ce qu'on avait prévu au départ? Comment est-ce qu'on imaginait qu'on allait redistribuer l'État? Et concrètement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des processus administratifs qui ont abouti? Et donc, est-ce qu'il y a des paysans qui ont pu bénéficier qui ont pu récupérer des terres, tout simplement?
Alors, il y avait effectivement 3 volets. Le premier volet est antérieur à l'accord de paix de 2016. Il s'agit d'une loi de 2011 de restitution de terres. Alors, cette loi se donnait comme objectif de restituer les terres des victimes de spoliation, un phénomène massif durant le conflit colombien. Le deuxième volet était un volet de formalisation de terres, puisque l'un des problèmes des zones rurales colombiennes, comme dans d'autres pays du continent et ailleurs dans le monde également, est l'informalité de la propriété et donc la situation de fragilité dans laquelle cette informalité place les individus. On pourra revenir sur ce point-là, puisqu'il y a des débats très importants là-dessus. Et le troisième volet était le seul qui concernait véritablement une redistribution, c'est-à-dire qui se donnait comme but de transformer les structures sociales de la propriété. Sur le volet de la restitution Il y a eu des choses qui ont été faites, mais en réalité, lorsqu'on fait des évaluations, alors récemment j'ai travaillé par exemple sur des évaluations à l'échelle de municipalités, on voit que les effets sont minimes, puisque dans une municipalité, on pouvait avoir des milliers de déplacés forcés, dont beaucoup étaient des petits propriétaires, et au final, on se retrouve à avoir 2, 3 ou 4 cas de restitution tout au plus.
Là, vous parlez de ce qui a été fait dans le cadre de la loi de 2011 ?
Oui,
Moi, j'ai un bilan, en 7 ans, 37 000 agriculteurs qui a récupéré un total de 300 000 hectares et je crois qu'il reste encore 700 000 hectares à redistribuer parce que la loi peut aller jusqu'à 2021, on peut même la prolonger mais il y a encore beaucoup de terres à redistribuer. C'est un bilan maigre.
Oui, c'est un bilan très maigre, d'autant plus qu'en fait, dans les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement colombien, il y a des grandes surfaces qui correspondent en réalité à des territoires collectifs. Donc des territoires donnés en exploitation collective, notamment à des communautés indigènes ou des communautés afro-colombiennes. Ces territoires sont souvent des territoires vastes, dans des zones difficiles d'accès, et donc ils font mathématiquement gonfler le bilan.
Sur l'accord de paix, très, très particulièrement, qui prévoyait là aussi la substitution, je crois, des cultures illicites en incitant les paysans à se détourner de la coca pour cultiver d'autres choses. Je crois même qu'en théorie, ces paysans étaient censés recevoir une aide mensuelle. Ça devait être 340 ou 350 dollars par mois, je crois. Est-ce que ça a marché? Est-ce que sur le terrain, on a pu mettre en place ces processus de substitution de culture? Et je vous donne la parole, Michel Merlet.
Alors, sur la substitution de culture, le gouvernement, depuis le début, a une attitude duale, je dirais. D'un côté, on met effectivement en place certains programmes de substitution, mais ça existait déjà. Il y a eu juste une redirection de certaines ressources, notamment de la coopération d'origine de l'aide internationale vers ces programmes-là. Mais à côté, le gouvernement continue à avoir une attitude tout à fait hostile vis-à-vis des paysans engagés dans la culture de la feuille de coca. Et par ailleurs, le président, à plusieurs reprises, s'est dit hostile à un traitement qu'il juge qui laisserait à ces paysans la possibilité de se reconvertir trop facilement.
Oui, sans compter que alors le gouvernement est hostile envers ces paysans qui continuent de faire de la coca, sauf qu'en réalité, les paysans n'ont pas véritablement le choix d'arrêter parce qu'ils sont aussi sous la pression de groupes armés qui ne veulent pas qu'ils s'en détournent. Donc ils sont pris d'une certaine manière entre le marteau et l'enclume. Michel Merlet.
Ben oui, c'est toujours difficile.
Approchez-vous du micro.
C'est toujours difficile de pouvoir avoir une position indépendante des rapports de force qui sont extrêmement contraignants, qui vous entourent. Hein, d'une façon très générale, les paysans et les indigènes en Amérique latine ont eu beaucoup de mal à faire entendre leur voix, à s'organiser, hein, et à pouvoir peser dans la définition des politiques nationales. Hein. Ça a été à peu près général. Même en Argentine, où la plupart des paysans du sud de l'Argentine et du sud du Brésil et de l'Argentine étaient en fait des immigrés européens qui auraient pu avoir une vision un peu différente, puisque tous les indigènes avaient été tués, hein. Tout simplement, c'est malheureusement la réalité. Même là, ça a été difficile et très très vite, les groupes dominants ont repris le pouvoir et le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a eu, une tentative avec la Fédération agraire argentine au milieu du 20e siècle, hein, d'essayer de réguler par exemple les marchés de location, de mettre en place une loi sur le fermage. C'est la seule expérience dans ce sens-là qui a eu lieu en Amérique latine, et ça a échoué à cause du poids des lobbies des très gros producteurs.
Vous dites faire entendre sa voix, Jacobo Grajales. Si on revient sur le cas de la Colombie, je disais tout à l'heure, rappelons-nous que l'émergence des FARC, elle s'est faite sur le terreau de la contestation paysanne. La question de la redistribution des terres était évidemment une préoccupation centrale à l'époque. Or aujourd'hui, grâce à cet accord de paix, les FARC ont maintenant une voix dans le paysage politique, puisqu'ils ont pu se transformer en parti, qui s'appelle FARC. Alors c'est pas exactement la même chose, je crois que ça veut dire Force Alternative Révolutionnaire commune. Donc on a des représentants au Parlement. Alors est-ce que justement ça permet aux paysans de mieux faire entendre leur voix? Est-ce que les FARC se soucient aujourd'hui de la question de la redistribution des terres, ou est-ce que finalement maintenant qu'ils sont entrés dans le paysage politique, c'est plus leur souci?
Voilà. C'est malheureusement comme ça qu'on a le sentiment que les choses sont en train d'évoluer. Les FARC ont deux priorités actuellement. La première d'entre elles est la transformation de ce mouvement effectivement en parti politique, alors que leur résultat aux dernières élections législatives était bien en deçà de leurs attentes. Et la deuxième préoccupation, c'est leur traitement judiciaire, puisque le gouvernement est actuellement en train de déployer différentes stratégies pour détricoter l'accord de paix sur ce point-là et pour envoyer un certain nombre de ses anciens commandants guérilleros en prison. Et donc aujourd'hui, la priorité des FARC est d'assurer la liberté de ses anciens commandants et de peut-être ouvrir un espace politique pour leur mouvement. On a, et c'est notamment ce qu'un certain nombre d'acteurs sur le terrain me disaient lorsque je faisais des entretiens, on a, ces personnes-là ont l'impression que les FARC les ont oubliés.
Ça, Michel Merlet, ça, c'est aussi peut-être une constante qu'on voit un peu partout en Amérique latine, c'est que d'abord, ils ont beaucoup de mal à se faire entendre. C'est au fond un mouvement qui est particulièrement divisé. C'est vrai en Colombie, mais en réalité, c'est vrai un peu partout. Et puis, dernier point aussi, peut-être qu'on peut ajouter, c'est que souvent, ils ont été utilisés, instrumentalisés par le politique, et les réformes agraires ont pu être parfois des outils par lesquels on les utilisait, par lesquels on essayait justement de les rallier au pouvoir, etc. Ça a été évidemment l'un des grands drames aussi, et peut-être qui explique ces échecs à répétition, Michel Merlet. On l'a vu au Nicaragua, par exemple. J'ai lu votre papier, c'est l'un des cas. Voilà.
Tout à fait. Mais même, il faut remonter un petit peu avant encore, même l'indépendance des États latino-américains vis-à-vis de l'Espagne et du Brésil n'a pas été une révolution populaire qui a permis de renverser une situation d'oppression intérieure. Ça a été la reprise du pouvoir par les criollos, les Espagnols installés sur place, par exemple, dans la partie hispanique, du pouvoir, pour pouvoir continuer à contrôler la main-d'œuvre, en particulier les paysans, qui de plus en plus s'échappaient dans la frontière agricole et qui n'arrivaient plus à pouvoir faire travailler dans leurs exploitations, dans leurs fermes. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette fameuse révolution bolivarienne, quelque part, on l'a retrouvée un peu partout, et c'est pas lié à Bolivar en particulier, mais c'était une révolution des groupes dominants contre les paysans, quelque part. Mmh. Et donc, ça c'est quelque chose d'essentiel, et quand les contradictions entre la grande production coloniale et latifundio, et puis les paysans pauvres, marginalisés, deviennent vraiment trop trop fortes, eh bien, il y a des révolutions qui se passent, c'est ce qui s'est passé au Mexique, c'est ce qui s'est passé en Bolivie aussi, au Guatemala, elle a été écrasée pas avec l'appui des États-Unis, la révolution du même style. Et après, avec la révolution cubaine, ce sont les Américains eux-mêmes, avec l'Alliance pour le Progrès, qui ont promu des réformes agraires en Amérique latine de façon à éviter que ne se reproduise ce qui s'était passé à Cuba. Et donc, on a eu tout un tas de gouvernements militaires qui se sont mis en place, avec souvent un discours qui se disait de gauche, et qui a en fait repris tout le discours de la collectivisation soviétique, c'est ce que j'ai vécu au Nicaragua directement, en pensant finalement, comme les anciens propriétaires, que les paysans de toute façon ne constitueraient jamais une alternative pour le développement, et qu'il fallait constituer des grandes fermes d'État modernes avec des travailleurs agricoles qui travaillent pour les fermes d'État.
On va parler dans un très court instant justement du Nicaragua, puisque vous étiez, disons-le, aux premières loges pour voir justement ce qui s'est passé dans les années 80, mais on va y revenir. Mais cette utilisation politique, voire quasi idéologique des réformes agraires, on l'a aussi vu du côté de la Colombie, Jacobo Grajales, dans les années 60-70. On lance aussi un grand programme de réforme agraire. Alors, officiellement, il s'agit de faire reculer la pauvreté, de permettre aux plus démunis de vivre au fond de leurs terres. Mais c'est aussi un outil qui est censé faire reculer l'idéologie marxiste dans les zones rurales. C'est aussi ça.
Oui, cette utilisation anticommuniste de la réforme agraire a été assez courante. Alors en Colombie, pour le coup, ça a donné des résultats très maigres, puisque très rapidement, il y a eu une réaction du camp conservateur associé à la grande propriété foncière. Et la solution qu'on a trouvée, comme dans d'autres pays du continent, au Brésil par exemple, a été d'envoyer les paysans ouvrir la frontière agraire, notamment dans toute la zone amazonienne.
Alors, Michel Merlet, le Nicaragua. Vous êtes arrivé, vous, au Nicaragua, au milieu des années 70. Vous deviez rester quelques mois pour votre service civil. Et puis, en fait, vous êtes resté une douzaine d'années. Vous avez été aux premières loges pour voir la manière dont s'est déployée, justement, cette réforme agraire, puisque vous étiez employé, je crois, à l'Institut National de Réforme Agraire. Faut rappeler quand même pour les auditeurs que 1979, c'est le moment de ce grand mouvement révolutionnaire qui fait tomber le régime en place. Allez, peut-être une belle archive de 1979, justement.
Je pense que des élections libres vont avoir lieu d'ici 3 ans. Ici, il n'y a même pas de vraie liste électorale. On n'a encore jamais voté en liberté. Mon mari, par exemple, qui a été assassiné par Somoza il y a un an et demi, est mort à 53 ans sans jamais avoir voté.
Bien sûr, il y a toujours le risque d'une intervention étrangère de la part d'un pays qui n'aimerait pas les nations qui ont une politique indépendante. Mais à la différence du Chili et d'Allende, notre révolution dispose ici de l'appui d'une armée populaire et de l'appui de l'ensemble du peuple. Notre révolution a donc beaucoup plus de force et beaucoup plus que n'en avait le gouvernement d'Allende.
Voilà, archives de 1979, juillet 1979, on entendait notamment Violeta Chamorro qui deviendra plus tard présidente du pays. Alors aujourd'hui, l'ancien héros de la révolution sandiniste, Daniel Ortega, est toujours au pouvoir et il compte bien y rester malgré les très nombreuses contestations sociales qui secouent le pays depuis des mois, depuis en particulier le printemps dernier, Michel Merlet. Avec une répression qui a été absolument terrible de la part du régime. On parle de centaines de morts, on parle de milliers de personnes qui ont été incarcérées, même si très récemment, la semaine dernière, il y a plus d'un millier de personnes qui ont été libérées. Mais d'abord, on va commencer avec un tout petit peu d'actualité, Michel Merlet. Jusqu'où est-ce qu'on peut établir un lien entre les violences qu'a connu le pays là ces derniers mois et les inégalités d'accès à la terre? Les contestations à l'égard du régime plongent-elles aussi leurs racines dans cette incapacité de l'État à lutter contre les injustices foncières qu'on décrit depuis le début?
C'est rarement évoqué, mais ça me paraît tout à fait évident. On n'en parle jamais. Et au moment de la réforme agraire, donc en 1979, la réforme agraire faisait partie du programme du Front sandiniste. Et le Front sandiniste est arrivé au pouvoir un peu contre les attentes de tout le monde. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé, parce que je travaillais avec une ONG qui appuyait les travailleurs agricoles et les paysans pauvres, dont le directeur s'est retrouvé être le vice-ministre de la réforme agraire. Je me suis retrouvé un des premiers employés de cet institut de la réforme agraire, et envoyé même avec des délégations de pouvoir importantes, totalement absurdes pour un jeune Français de 25 ans, se retrouver chargé d'installer l'institut de réforme agraire dans toutes les provinces du nord du Nicaragua. Ça montrait à quel point le Front sandiniste était peu préparé à pouvoir assumer le pouvoir.
Mais donc à l'époque, ce que vous constatiez, c'est que la question de l'accès à la terre était l'un des moteurs de la révolte.
Oui, sans aucun doute. C'était un des moteurs de la révolte, mais il y avait aussi une révolte des villes, des secteurs, contre une situation de dictature qui était devenue insupportable. Mais la bourgeoisie qui ne partageait pas les mêmes intérêts que la dictature somociste était également très active dans cette opposition. Et c'est un gouvernement d'unité nationale qui est arrivé au pouvoir, et le Front sandiniste a récupéré, par un concours de circonstances un peu étonnant, je rentre pas dans les détails, mais l'ensemble du pouvoir militaire, à la fois législatif et puis exécutif. Et donc dans ces conditions-là, on aurait dû pouvoir faire la réforme agraire. Et dans la pratique, dès le début, le Front sandiniste a essayé d'éviter que les redistributions de terres se continuent de manière spontanée. Et il a essayé de mettre en place un schéma avec des fermes d'État, des grandes fermes d'État ou des coopératives de production, de façon à ne pas courir le risque de ne plus avoir de travailleurs pour couper le café et pour couper le coton dans les fermes qui étaient devenues des fermes d'État.
Mais avant cela, avant cette, j'allais dire cette manipulation politique, peut-être que c'est un peu fort, mais avant cela, il y a quand même tout un moment où on va rendre des terres, disons, à certains paysans, et en particulier les terres qui appartiennent à la famille Somoza, qui était peut-être la principale famille qui avait des surfaces absolument immenses. Ça, on commence par prendre ces terres-là et par les redistribuer, en tout cas en partie.
Non, elles sont pas redistribuées dans un premier temps. Elles sont nationalisées, sauf les terres qui avaient déjà été occupées par des paysans pauvres qui en avaient pris le contrôle. Et l'argument était de dire les fermes de la famille Somoza sont les fermes les plus modernes, c'est les fermes les plus avancées, et on ne peut pas revenir en arrière en les redistribuant à des paysans. Il faut donc organiser des fermes d'État, et moi j'ai eu la chance de tomber sur des paysans qui étaient particulièrement sympathiques. Quand j'ai eu l'ordre d'aller leur demander de céder les terres qu'ils avaient prises pour pouvoir devenir des ouvriers de la ferme d'État qui allait se mettre en place, parce que n'importe quel paysan normal aurait utilisé sa machette pour me couper la tête à cette époque-là. C'était donc extrêmement extrêmement violent, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de mouvement paysan structuré suffisamment pour pouvoir s'opposer à cette décision de la direction politique du Front sandiniste, qui était en grande partie assumée par des gens qui étaient les représentants de la bourgeoisie non somociste. ce que je n'avais pas à l'époque très clairement en tête.
Il y a un moment de cette réforme agraire qui est important, sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. C'est assez vite après la chute du régime, en 1981, le gouvernement sandiniste va mettre en place l'Union nationale des agriculteurs et des éleveurs. Je voudrais que vous nous décriviez ce que c'est que cette union, et puis quel est l'objectif qu'il y a derrière, et puis quel sera le rôle ensuite de cette union dans cette gestion des terres.
Alors, au moment de la Révolution, il y avait une organisation qui était en train de se constituer, qui était l'Association des travailleurs de la campagne, l'ATC, qui regroupait paysans pauvres et puis ouvriers agricoles. Mais ils étaient très très peu présents, c'était à peine en train de se faire. Mais ils avaient pris énormément d'essor en 79, 80 et puis début des années 81, et ça devenait un danger parce qu'ils remettaient en cause la possibilité de maintenir une situation de grande exploitation étatisée et de minifundium incapable de subvenir à ses besoins à côté. Hein, et donc c'est à ce moment-là que le Front Sandiniste a créé l'Union Nationale des Agriculteurs et des Éleveurs, qui regroupait tous les agriculteurs, depuis les agriculteurs sans terre, jusqu'aux très grands agriculteurs qui avaient appuyé le front.
Donc, d'une certaine manière, on a un peu marginalisé les petits paysans qui, j'imagine, dans cet ensemble, n'avaient plus beaucoup de poids, en tout cas au regard des grands exploitants.
Tout à fait. Et en plus...
C'était l'objectif politique.
Ça n'a jamais été dit comme ça.
Oui, non, mais j'entends bien.
Mais c'était l'objectif réel. Et en plus de ça, la réforme agraire a été exécutée non pas par les mouvements paysans, mais par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui a fait la réforme agraire et qui a demandé à l'organisation en question, aux organisations en question, d'appuyer les mesures de réforme agraire qui étaient mises en place. Et ça s'est passé avec beaucoup de résistance, mais c'est surtout à partir du moment où une partie des paysans, en particulier des zones de l'intérieur, ont commencé à se soulever contre, à protester contre les tentations d'étatisation, hein, de nationalisation d'un certain nombre de terres et de moyens et du commerce en particulier, et qu'ils ont reçu l'appui des Américains, hein, c'est ce qu'on a appelé la Contra, qui est devenue très très importante, et quand la Contra a commencé à être sur le point de prendre le pouvoir sur l'armée sandiniste, on a commencé à leur donner des terres.
Et pour qu'ils appuient, pour qu'ils soutiennent le gouvernement en place. Ça a marché ?
Oui, ça a marché. Mais ça a été très temporaire et ça s'est pas du tout transformé en une véritable réforme agraire redistributive. C'est-à-dire que l'essentiel de la redistribution des terres, finalement, en passant des coopératives de production qui étaient censées travailler de manière collective, même si dans la pratique, elles travaillaient souvent de manière semi-collective et une partie individuelle, elle s'est faite vraiment après la perte des élections par le gouvernement sandiniste en 1990. Et là, il y a eu une division généralisée des terres. Hein, mais pour vous donner une petite idée, il n'y avait pas, au moment de la perte des élections du Front Sandiniste, il n'y avait pas d'organisation qui regroupait les coopératives, qui était pourtant un secteur important. Elle ne s'est structurée qu'après la défaite du Front Sandiniste aux élections en 90.
Il n'empêche que quand on fait un bilan, les choses ont vraiment changé. Je reprends des chiffres à vous. Vous dites, à la fin des années 80, les grandes exploitations, c'est-à-dire de plus de 350 hectares, elles ne représentaient plus que 19% de la surface agricole totale contre 26% 10 ans plus tôt. Donc, il y a eu de réelles transformations.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il fallait quelque part remettre les pendules à l'heure, hein, et ça a été fait avec la politique économique. On a arrêté toutes les subventions au secteur paysan, hein, au secteur réformé, et donc tous ces gens qui avaient reçu de la terre se sont retrouvés dans l'incapacité de continuer à la faire produire, hein, et ont été amenés à la vendre très rapidement, hein, le plus rapidement possible, hein, sans qu'aucune structure de rachat, en particulier par les coopératives ou les coopérateurs qui voulaient rester et avoir le contrôle de cette terre, ait pu être mis en place.
Jacobo Carajales. Réaction avant de prendre la direction de l'Afrique du Sud.
Oui, alors ça montre, vu depuis la Colombie, ça montre à quel point même une situation révolutionnaire a du mal à renverser des structures agraires fortement ancrées dans une histoire longue. Vous imaginez ce que ça peut être dans un cas où, au contraire, ce sont des secteurs politiques alliés avec les grands propriétaires fonciers et soutenus électoralement, politiquement par ces grands propriétaires fonciers. Qui sont au pouvoir aujourd'hui, et c'est le cas en Colombie.
Allez, direction l'Afrique du Sud.
Même si ce n'est pas notre terre, nous l'avons prise et maintenant elle est à nous. Et c'est pour ça que tu es venu ici. Tu as été chassé par la force, tu es venu ici et maintenant tu occupes cette terre.
Nous devons redistribuer les terres aux légions de pauvres sud-africains. La terre a été enlevée aux Noirs lorsque les Blancs sont arrivés en 1862. Nous ne faisons rien d'autre que de rendre la terre à ses légitimes propriétaires, la majorité noire. Notre peuple a été abandonné. Personne ne s'occupe plus de nous. Maintenant, c'est à nous de changer l'Afrique du Sud et d'imposer l'expropriation sans compensation. Ceci afin de rétablir notre dignité.
Cette terre nous appartient. Voilà le slogan de ce nouveau parti radical sud-africain, l'EFF, les combattants pour la liberté économique. Petit rappel, 1994, au lendemain de l'apartheid, le gouvernement sud-africain lance une grande réforme agraire par laquelle on rend des terres aux Noirs. Il s'agissait alors d'essayer de corriger, je mets des guillemets, les injustices qui avaient eu lieu par le passé, la spoliation dont les Noirs avaient été les victimes, notamment avec cette loi de 1913, par laquelle les Blancs avaient confisqué de très nombreuses terres aux Noirs. 25 ans après cette réforme post-apartheid, il semble qu'on n'en a pas complètement fini avec cette question. Et d'ailleurs, Cyril Ramaphosa, l'actuel président qui compte bien rester président à la faveur des prochaines élections générales qui se tiendront en mai prochain, a annoncé une nouvelle réforme agraire. Bonjour Nancy Andrew.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse associée au LAM, les Afriques dans le monde. Vous êtes sociologue du développement rural, et spécialiste de cette question foncière en Afrique australe. Il est clair qu'il existe aujourd'hui une question foncière en Afrique du Sud, on l'entendait, que la réforme de 1994 n'a pas tout réglé, mais n'empêche qu'il y a quand même certain nombre d'observateurs qui considèrent qu'il y a derrière l'annonce de cette nouvelle réforme agraire une manœuvre politique de la part de Cyril Ramaphosa qui ambitionne d'être réélu. Vous diriez qu'il y a effectivement de la part du président sud-africain peut-être une ambition d'utiliser cette question de la redistribution des terres à des fins électoralistes ?
La question foncière en Afrique du Sud, ça a toujours été un sujet de politique et de débat depuis la fin de l'apartheid. Alors, je dirais que tous les partis politiques et tout le monde utilise sur le plan politique. Et c'est clair qu'au vu des élections qui s'approchent, que c'est un des sujets les plus vifs par rapport à la position de l'ANC, qui est de moins en moins sûre par rapport aux opposants et aux gens qui demandent de la terre, mais qui l'utilise effectivement pour déstabiliser l'ANC.
Oui, surtout que l'ANC fait l'objet d'un certain nombre d'affaires de corruption, et peut-être que la réforme agraire, c'est un moyen de mettre un autre sujet au cœur des débats. Mais passons sur cette question politicienne. Regardons un petit peu le bilan de la réforme de 1994, parce que je le disais, s'il y a aujourd'hui cette nécessité de faire une nouvelle réforme, c'est que la précédente n'a pas totalement fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En quoi la redistribution foncière post-apartheid n'a pas été satisfaisante?
Vous êtes généreux, moi je dirais que c'était un échec. C'est-à-dire que non seulement ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas redistribué plus que 9% des terres avec tous les volets confondus de la réforme agraire. Il y a eu plusieurs modifications au cours des 25 ans, là. Mais en même temps, si on voit la donne raciale que vous avez évoquée dans votre introduction, ça n'a pas vraiment bougé. Point de vue de la structure de l'agriculture à grande échelle et surtout par rapport à la structure foncière qui a été héritée de l'apartheid.
Un chiffre pour illustrer votre propos. Au février 2018, il y a un audit du ministère du Développement Rural et de la Réforme Agraire qui affirme que les Blancs possèdent 72% des terres en propriété individuelle. Ça donne un peu une idée. Alors, le projet de cette future réforme, Nancy Andrew, c'est quoi? La philosophie générale et comment est-ce qu'on compte mettre les choses en place?
Le projet de loi a été annoncé en décembre pour une période de commentaires publics de 60 jours. Mais pour rentrer dans les détails du projet de loi un tout petit peu, cinq catégories de terres qui sont d'ailleurs la raison que je pense pas que ça ira très loin, c'est parce que les catégories sont tout à fait logiques et l'ANC ne cherche pas du tout à enflammer la situation avec sa base sociale blanche qui depuis 1995 et la mise en place de la réforme agraire très modeste est plus ou moins content avec ce qui leur arrive. Alors, il y a des catégories qui concernent les terres abandonnées, par exemple, les terres possédées par une société publique, c'est-à-dire de l'État, les terres occupées par les labor tenants, qui a toujours été un sujet très controversé parce que c'était une des catégories de la population démunie qui était ciblée au début de la réforme agraire juste après l'apartheid, mais qui n'a jamais été vraiment réalisé. Les droits fonciers pour cette catégorie de gens qui travaillent la terre, souvent en échange d'un lopin de terre à eux, ou bien sont payés en nature, si payés du tout, n'ont jamais vraiment été réalisés. Quatrième catégorie, c'est les terres à but spéculatif, ce qui concerne peut-être les étrangers, mais pas forcément. Et tout ce qui touche vraiment aux propriétés privées blanches va être contesté légalement et peut-être politiquement. On a vu déjà un tollé, une réaction de l'extrême droite en Afrique du Sud, des nationalistes africains. C'est un lobby qui est très organisé, qui a beaucoup l'attention des médias et qui va s'opposer. Et justement, dans le projet de loi, il y a des clauses qui prévoient des négociations probablement moins longues que celles qui ont complètement bloqué le processus jusqu'à présent et depuis 20 ans. Mais en même temps, il y a quand même un tissu social qui fait que les expropriations, est-ce qu'il va y avoir vraiment un conflit politique, comme vous avez décrit en Amérique latine, en Afrique du Sud, c'est pas vraiment la même situation. Mmh. Il y a une vraie colère, surtout par rapport à nombreuses questions, et c'est pas surtout la corruption. La corruption, ça vient comme la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout le non-changement de la situation socio-économique.
Mais de façon générale, de façon générale, Nancy Andrew, et puis je vais donner la parole à nos deux invités ici sur place, peut-être pour les faire réagir, mais est-ce que de façon générale, je dois comprendre qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à attendre, on ne va pas vers une révolution foncière en Afrique du Sud pour tout un tas de raisons. Est-ce que je résume bien votre pensée?
Je pense que le mot est déplacé, il n'y a pas du tout de révolution.
Voilà, c'est ça. Pas de révolution foncière à attendre, bien qu'il y ait évidemment un réel problème et que ça soit évidemment aujourd'hui l'un des sujets au cœur de la campagne électorale. Réaction avec vous, Michel Merlet et Jacobo Grajales, peut-être, avec un jeu de miroir entre l'Afrique du Sud et le cas sud-américain.
En Afrique du Sud,
approchez-vous du micro.
En Afrique du Sud, la réforme agraire, entre guillemets, qui a été mise en place, a été qualifiée par la Banque mondiale de réforme agraire assistée par le marché. Hein, c'est-à-dire qu'on partait du principe que, comme les réformes agraires souvent n'avaient pas les succès escomptés, hein, il fallait utiliser les mécanismes marchands pour faire en sorte que les paysans pauvres puissent acheter les terres aux grands propriétaires terriens, en leur donnant des crédits. Hein, bien évidemment, on ne résout pas les problèmes de la pauvreté en faisant en sorte que les pauvres avec du crédit puissent acheter leurs biens aux riches. Ça n'a jamais marché comme ça et ça marchera jamais comme ça. Ça n'a provoqué qu'une augmentation du prix de la terre, des plus mauvaises terres que voulaient vendre les propriétaires fonciers, et ça n'a absolument rien redistribué.
Et en même temps, c'est quoi la bonne solution ? Prendre les terres sans compensation aucune et...
Donc ça, c'est un des drames. C'est un des drames qui considère que le marché doit être la solution.
Ouais. Hein ?
Et l'autre drame, c'est que la propriété en tant que telle, comme propriété exclusive d'un individu, est considérée comme l'élément absolument central. Hein, donc c'est marché plus propriété absolue qu'on a, nous, importé en Amérique latine avec le code civil, hein, après la période de l'indépendance. Hein, et donc, alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça chez nous, hein, même malgré notre code civil. On ne rentre pas dans les détails juridiques, mais ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est que ce qui apparaissait comme l'alternative, hein, c'était l'alternative socialiste. Hein. Or, quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé dans les anciens pays de l'Union soviétique, tout ce qui était agriculture collective s'est retrouvé transformé en une agriculture capitaliste sauvage, de très très grandes structures. Et donc, il y a absolument aucun espoir de ce côté-là. Donc il faut complètement repenser toute cette transformation et cette troisième voie. Il y a quelques ébauches qui pourraient éventuellement être utilisées. Ce que font les sapatistes dans le Chiapas, ça peut être intéressant, par exemple. Mais ça reste complètement marginal. Et un des problèmes du Nicaragua aujourd'hui, c'est qu'on a le Daniel Ortega, qui est revenu au pouvoir avec les élections, a reconstitué un régime qui a beaucoup de ressemblances avec le régime de Somoza. C'est-à-dire qu'il a concentré tous les pouvoirs, il n'y a plus de liberté. Mais il continue à revendiquer cette idéologie entre guillemets socialiste qui finalement ne représente absolument plus les intérêts des paysans ni des pauvres en général.
Jacobo Grajales.
Alors, je trouve qu'effectivement, la comparaison avec l'Afrique du Sud est saisissante. Et ce qui était évoqué par Michel Merlet, ces réformes agraires assistées par le marché ont été également appliquées en Colombie comme ailleurs dans l'Amérique latine et dans les pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Ça n'a pas plus marché là-bas. En Colombie, on était à 100 000 hectares dans les années 90, au lieu du million d'hectares qui était attendu dans le cadre de cette politique qui, à l'époque, était soutenu par la Banque mondiale. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une situation encore pire que dans les années 90, puisque au moins à l'époque, l'idée, pour rester sur le contexte colombien, l'idée que la propriété puisse avoir une fonction sociale était largement acceptée, inscrite dans la Constitution de 1991. Aujourd'hui, en réalité, cette idée d'une fonction sociale de la propriété et donc d'une remise en cause de la propriété de certains au nom de l'intérêt collectif n'est plus du tout de mise. En réalité, cette réforme rurale intégrale, c'est le nom que porte la réforme agraire négociée avec les FARC en 2016. Elle n'était pas censée toucher à la propriété de quiconque, puisque on pensait, je vous parlais tout à l'heure de ce troisième volet de l'accord qui était le seul en réalité redistributif. Eh bien, à aucun moment on s'est posé la question d'aller chercher les terres de grands exploitants qui thésaurisaient sur la terre grâce à une fiscalité sur le foncier rural extrêmement avantageuse.
On aurait dû.
On aurait dû probablement puisque c'est l'un des problèmes, l'une des causes de l'accumulation de terres en Colombie.
Donc il fallait s'attaquer à l'agrobusiness, c'est ça que vous êtes en train de me dire en creux.
Il fallait s'attaquer à l'agrobusiness, mais il n'a jamais eu les possibilités politiques pour le faire.
Parce que eux, pour le coup, ont de très bons relais politiques.
Extrêmement bons. Et en réalité, la solution qui a été trouvée, ça a été de dire on va aller chercher des terres marginales, par exemple des biens mal acquis, des personnes qui auraient accumulé des terres par des activités criminelles, des narcotrafiquants, etc. Mais avec un fantasme qui consistait à penser qu'on pouvait y trouver la source d'une réforme agraire.
Yo que pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón. Que me entendiese, que me adorase, que haga mi vida una canción.
Merci à tous nos invités. Nancy Andrew qui est avec nous par téléphone, qui est chercheuse associée au LAM, les Afriques dans le monde. Merci également à nos deux invités ici en plateau. Michel Merlet, je rappelle que vous êtes directeur de l'association ACTER, association pour contribuer à améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles. Je redis que vous avez un site sur lequel on peut trouver de très nombreuses informations. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jacobo Grajales, et merci également. Je rappellerai vous concernant Colombie, une paix qui ne règle pas le conflit agraire qui avait été publié par AOC, et puis également chez Cartala, un ouvrage collectif, L'État malgré tout, avec votre co-auteur qui est
Romain Lecourt Grand Maison.
Pero no, ya te olvidé. Ya no me importa nada de ti. Nada. Amnesia.
C'est avec ce groupe argentin, la Delio Valdés, et ce morceau Amnésia Totale qu'on se quitte. On reprendra notre cycle consacré à l'agriculture demain, mais pour l'heure, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous reparlez de Taïwan ce matin. Oui. Pendant 40 ans, les relations entre la Chine populaire et la République de Chine, autrement dit Taïwan, ont été gelées sous la garantie américaine. Qu'est-ce qui a changé?
D'abord, la Chine est en train de développer une énorme puissance militaire maritime. En un très petit nombre d'années, elle s'est dotée de la deuxième flotte du monde par son tonnage et de la première en effectif. Près de 500 navires de guerre et près de 250 000 hommes. Ensuite, l'époque où Deng Xiaoping conseillait au pays d'accumuler ses forces mais de ne pas les montrer et d'attendre son heure est passée. Xi Jinping, lui, pense que le moment est venu pour l'Empire du Milieu de se montrer assertif. De l'autre côté, les Américains n'ont cessé de se désengager de la plupart des conflits où ils s'étaient embourbés. Le pivot vers l'Asie qu'avait invoqué Obama pour justifier ses retraits a tardé à se concrétiser. Et Trump est franchement isolationniste. America first. Voilà pour la tendance. Mais surtout, il y a la conjoncture. D'un côté, la Chine est en train de connaître un sérieux ralentissement de sa fameuse turbo-croissance. Ce genre de situation est propice aux aventures extérieures en provoquant un conflit en soude une population autour de slogans nationalistes. On lui fait oublier la dureté des temps. Xi Jinping, tout récemment, a multiplié les avertissements belliqueux envers Taïwan. En janvier encore, il a averti qu'il n'écartait aucun moyen de réunifier l'île de Taïwan à la Chine continentale, y compris les moyens militaires. Et il a envoyé son porte-avions, le Liaoning, croisé au large de l'île à titre d'avertissement. Dans Foreign Affairs, Peter Grease et Tao Wang, deux universitaires britanniques, sonnent l'alarme. La perspective d'une confrontation militaire pour Taïwan a considérablement augmenté ces derniers mois, écrivent-ils, pour des raisons électorales. Parce que à Taïwan, la présidente Tsai Ing-wen a déçu l'aile dure de son électorat, celui qui espérait qu'elle déclare franchement l'indépendance de Taïwan, et du coup, la popularité de son parti, le Parti démocratique progressiste, est en baisse. Et le Kuomintang, le parti nationaliste, beaucoup plus favorable à une entente avec Pékin, pourrait bien gagner les élections sur l'île qui sont prévues en 2020. Mais justement, l'élection d'un président plus complaisant envers la Chine continentale priverait Pékin d'un prétexte à attaquer l'île rebelle si Trump, de son côté, perdait les élections de 2020. Même calcul en ce qui concerne donc les élections américaines. Xi Jinping aurait été impressionné par l'absence notable de réaction occidentale à l'annexion de la Crimée par la Russie. Or, encore une fois, si Trump perd la présidence, il risque d'être remplacé par un candidat beaucoup moins isolationniste, quelqu'un qui serait capable d'opposer la force des États-Unis à une tentative d'invasion de son allié taïwanais. Ces calculs sont dangereux, prévient Ming-Xin Pei, un universitaire spécialiste du sujet. En tant que protecteur en dernier sort de l'indépendance de facto de Taïwan, les États-Unis ont déjà pris des mesures pour porter le message qu'ils ne sauraient assister passivement à la mise au pas de Taïwan par l'intimidation. Le Congrès américain a passé en février 2018 un Taiwan Travel Act qui incite les autorités officielles américaines et taïwanaises à multiplier les rencontres. Et 5 sénateurs américains, républicains, viennent d'écrire une lettre à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pour lui suggérer d'inviter la présidente de Taïwan à venir s'adresser au Congrès à Washington, histoire de réaffirmer le soutien américain à Taïwan. C'est un message très clair et il a été reçu avec exaspération à Pékin. La Chine populaire pourrait très facilement décréter prochainement le blocus de l'île. Mais Taïwan, qui a sans doute quelque peu négligé ses propres forces armées ces dernières années, dispose d'un moyen de pression puissant sur Pékin. L'intégration des entreprises d'électronique et du numérique des deux côtés du détroit de Taïwan qui est très poussée. En cas de montée des tensions entre les deux Chines, nombre de ces entreprises risquent d'opter pour une installation complète à Taïwan afin d'échapper aux droits de douane infligés par Trump à la Chine populaire. Alors cela n'empêche pas Wendell Minnick dans The National Interest d'analyser en détail les forces en présence et les chances qu'aurait l'armée taïwanaise de résister victorieusement à une invasion militaire. Certes, les forces chinoises sont très supérieures à celles de Taïwan, conclut-il, mais celles-ci disposent d'armes de défense très sophistiquées, basées notamment sur une batterie de missiles de croisière anti-navires récemment modernisés et de missiles SAR jugés performants. La conquête de l'île rebelle pourrait s'avérer très coûteuse pour la Chine et pas seulement en termes d'image. Mais qu'on en soit à évoquer ce genre de perspective fait froid dans le dos, car dans le cas où on en arriverait là entre les deux Chines, la probabilité de voir s'impliquer les Américains, voire les Japonais, soutien de l'indépendance de Taïwan, est grande. Dans l'intérêt de la paix du monde et de la coexistence pacifique entre les deux plus grandes puissances militaires de notre temps, il faut souhaiter que les relations entre la Chine et Taïwan demeurent sereines.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.